faut nous dépayser dans notre propre origine. C'est-à-dire qu'il nous faut revenir à notre origine grecque, à notre origine hébraïque, à notre origine chrétienne, pour être un interlocuteur valable dans le grand débat des cultures. Pour avoir en face de soi un autre que soi, il faut avoir un soi. Seule une culture vivante, à la fois fidèle à ses origines et en état de créativité sur le plan de l'art, de la littérature, de la philosophie, de la spiritualité, est capable de supporter la rencontre des autres cultures. Non seulement de la supporter, mais de donner un sens à cette rencontre. Lorsque la rencontre est une confrontation d'impulsions créatrices, une confrontation d'élan, elle est elle-même créatrice. Je crois que de création à création, il existe une sorte de consonance en l'absence de tout accord. Rien par conséquent n'est plus éloigné de je ne sais quel syncrétisme vague et inconsistant. Au fond, les syncrétismes sont toujours des phénomènes de retombées. Ils ne comportent rien de créateur, ce sont de simples précipités historiques. Au syncrétisme, il faut opposer la communication, c'est-à-dire une relation dramatique dans laquelle tour à tour, je m'affirme dans mon origine et je me livre à l'imagination d'autrui selon son autre civilisation. La vérité humaine n'est que dans ce procès où les civilisations s'affronteront de plus en plus à partir de ce qui en elles est le plus vivant, le plus créateur. L'histoire des hommes sera de plus en plus une vaste explication où chaque civilisation développera sa perception du monde dans l'affrontement avec toutes les autres. Or, ce procès commence à peine. Il est probablement la grande tâche des générations à venir. Nul ne peut dire ce qu'il adviendra de notre civilisation quand elle aura véritablement rencontré d'autres civilisations autrement que par le choc de la conquête et de la domination. Mais il faut bien avouer que cette rencontre n'a pas encore eu lieu au niveau d'un véritable dialogue. C'est pourquoi nous sommes dans une sorte d'intermède, d'interrègne, où nous ne pouvons plus pratiquer le dogmatisme de la vérité unique et où nous ne sommes pas encore capables de vaincre le scepticisme dans lequel nous sommes entrés. Nous sommes dans le tunnel, au crépuscule du dogmatisme, au seuil des vrais dialogues. Rabbin Boissière, bonjour.
Bonjour.
Alors, je crois que ce texte de Paul Ricoeur, 1955, est une introduction merveilleuse au projet dont vous êtes l'initiateur, une journée interconvictionnelle, un événement interconvictionnel qui aura lieu à la mairie de Paris le 22 mars prochain. Et je me suis dit, voilà, un beau cadeau.
Magnifique, effectivement, c'est un texte. Alors, on connaissait à Paul Ricoeur une sorte de qualité prophétique, mais il semble que ce texte ait été écrit pour cette circonstance du 22 mars à la mairie de Paris. Car ce texte nous parle à la fois de retour permanent à l'origine, mais non pas un retour qui figerait les choses, mais au contraire pour y retrouver une imagination nouvelle qui nous porte vers les autres, vers une rencontre permanente avec des autres qui sont déjà là, mais d'autres qui sont autres aussi, qui arrivent. Et il semble que ce soit effectivement caractéristique de la période que nous vivons. Nous avons un grand besoin de nous rencontrer, de nous connaître et de réimaginer aussi un futur en commun, une redéfinition permanente, mais il semble qu'il y a une acuité particulière en ce moment à le faire.
Alors dans cette journée du 22 mars qui aura lieu à la mairie de Paris, comme je viens de le dire, il y aura des débats, il y aura de la musique, il y aura des discours, il y aura un prix, il y aura un buffet, mais ce qui m'a semblé le plus intéressant et le plus novateur, si vous voulez, dans votre projet, c'est d'avoir introduit un mot dont on n'a pas l'habitude, le mot conviction, le mot convictionnel et le mot interconvictionnel. Qu'est-ce que vous entendez par ce terme de conviction? Est-ce que cela rejoint ce soi dont parle Ricoeur, qui est l'expression de sa propre conviction sans laquelle on ne peut pas rencontrer l'autre parce qu'on serait dans ce syncrétisme un petit peu inutile?
Absolument, ce terme d'interconvictionnel, j'avais moi-même du mal à le prononcer il y a quelques mois et voici qu'à force de l'utiliser, je me rends compte qu'en fait il parle au cœur de mes interlocuteurs et qu'il exprime très exactement quelque chose de très actuel. La conviction, bien sûr, ce sont les convictions religieuses entre autres, mais il se trouve que l'une des originalités de cette journée sera aussi de prévoir des pensées, des croyances non religieuses, athées, agnostiques. Toutes les sensibilités religieuses seront bientôt, bien sûr, représentées. Et ce terme d'interconvictionnel est intéressant parce qu'il parle de conviction. La conviction conviction, c'est quelque chose qui est naturellement tourné vers les autres. Il y a quelque chose d'agonistique, de combatif dans la conviction. Le texte de Ricoeur le dit très bien. C'est intéressant de comparer avec le mot croyance. Le mot croyance a un verbe qui lui correspond, qui est croire. Quand on croit, c'est un retour sur soi. Mais le verbe qui correspond à conviction, c'est finalement convaincre. Et c'est convaincre, par définition, quelqu'un d'autre. Donc il y a dans le mot même de conviction quelque chose qui nous tourne vers l'autre et qui propose à l'autre un échange, un espace d'échange, parce que l'autre évidemment aussi a des convictions. Donc dans le terme de conviction, il y a immédiatement le terme de débat, d'un espace nouveau où chacun échange des choses qu'il croit déjà. Donc effectivement, il y a comme une carte, à une carte on oppose une autre carte, mais aussitôt se crée quelque chose d'autre qui est la rencontre dont parle Ricoeur et la nécessité d'imaginer quelque chose, parce que si ce n'est qu'une bataille au sens du jeu de cartes, effectivement on est dans une égalisation permanente qui n'est pas productive. Mais dans la conviction, il y a quelque chose auquel je tiens, on dit tenir à ses convictions, mais c'est tenir pour aussitôt convaincu, peut-être qu'il y a la possibilité d'être vaincu de manière pacifique par les arguments de l'autre. Donc il y a un risque, et il y a donc, il n'est de belles choses que dans le risque finalement, le risque éventuellement de pouvoir en changer. Et ça c'est quelque chose de très fort, c'est un échange où s'échange l'identité très très forte de chacun, mais avec le risque, très beau risque, de pouvoir évoluer soi-même dans son identité par la rencontre avec l'autre.
Alors cette conviction, elle est au cœur de la Déclaration universelle des droits de l'homme, puisque dans son article 18, c'est la liberté de religion ou de conviction, et puis c'est réaffirmé dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques, à l'article 18, signé par plus de 160 États. Cette liberté comprend, outre la liberté de culte, la liberté de se réclamer d'une religion ou d'une conviction, c'est le terme, de ne pas en avoir de conviction.
Absolument.
Et d'en changer ou d'y renoncer.
Absolument.
Donc là, on est vraiment dans cette idée de conviction au sens de une idée à laquelle on croit et, comme vous dites, une idée à laquelle on tient. Mais je me disais que cette émission, si vous voulez, dans laquelle nous sommes aujourd'hui, elle vient après plusieurs émissions où nous avons parlé du langage, de la rhétorique, de la persuasion, de l'esprit critique. Et j'ai cité plusieurs fois cette phrase de Wittgenstein, une citation que j'ai trouvée en exergue d'un livre de Sophie Nordman, Wittgenstein, qui dit « Il faut parfois retirer de la langue un mot ou une expression et les donner à nettoyer pour pouvoir ensuite les remettre en circulation. » Et j'ai l'impression que conviction, qui est un terme malgré tout à la fois très utilisé et peu utilisé, devrait être presque nettoyé, si on peut dire. Et je pensais à ce texte de Jean Kelevitch qui nous disait que faire de la philosophie, c'est une recherche rigoureuse où les mots qui servent de support à la pensée doivent être employés dans toutes les positions possibles, dans les locutions les plus variées, travail dans lequel il faut tourner les mots et les retourner sous toutes leurs faces, dans l'espoir qu'une lueur en jaillira, les palper et ausculter leur sonorité pour percevoir le secret de leur sens, les assonances et résonances des mots n'ont-ils pas une vertu inspiratrice ? Et à ce moment-là, je me suis dit, mais conviction, que nous dit le dictionnaire ? Vous savez que je suis un passionné du dictionnaire, je dis souvent que je fais de l'archéologie verbale. Or, le dictionnaire nous parle de conviction dans le sens que vous venez d'évoquer, mais il a un autre sens. Alors, bien sûr, c'est en latin, c'est du verbe convinso, qui veut dire du verbe de ce verbe. Et donc, conviction, c'est démonstration convaincante, ce que vous avez évoqué, qu'on retrouve d'ailleurs dans le domaine du droit. Par exemple, un juge va dire « selon mon intime conviction », mais surtout quelqu'un va être condamné parce qu'il y a des pièces à conviction. Donc conviction ici, c'est quelque chose qui a le sens de preuve. Mais ce qui est très intéressant, c'est par exemple l'adjectif « convictivus » qui signifie « propre à convaincre » ou « convincibilis »« convaincant ». Et à ce moment-là, on comprend facilement que en latin, victor et victoria signifient respectivement vainqueur et victoire. Et là, donc, on a cette dimension agonistique, de combative dont vous avez parlé, à la fois convaincre ou être convaincu, mais il y a une dimension de preuve et une dimension juridique. Mais, il existe un second sens de tous ces mots, qui, ou de ce mot en tout cas, qui est donné par le dictionnaire. Conviction, convictio, viendrait d'une autre racine, donc c'est le deuxième sens, enfin ce qui est d'ailleurs donné comme premier sens dans le dictionnaire. Ça viendrait non pas de convinso, qui veut dire convaincre, mais de convivo, qui veut dire action de vivre avec, intimité, et convictus signifiant le commerce, la vie commune, la société. Et là, je crois qu'on touche à quelque chose d'absolument fondamental. Convictus signifie le banquet, le festin. Et on sera sensible au fait que victus, ne renvoyant plus alors à la victoire ou au vainqueur, mais au vivre, c'est-à-dire à la nourriture. Comme on dit, on part en voyage et on prend des vivres. Et un terme qu'on retrouve dans victuailles, par exemple. Je crois qu'il y a ici quelque chose de bouleversant et de rafraîchissant, Rabin Boissière.
Absolument. Il se trouve que dans cet événement du 22 mars, il y aura l'aspect victuaille, puisque nous avons prévu un moment de les buffets de Marianne, parce que les voix de la paix, ce sont aussi les voix, on mange aussi avec la voix, parle, on chante et on mange. Ce qui me paraît très important, vous avez cité Wittgenstein, et ça me fait penser à deux dimensions extérieures aux convictions, mais en lien avec elles, qui permettent de situer justement où se situe la conviction. Il y a la dimension légale qui est très importante, et c'est une idée forte de cet événement que de situer un rassemblement au sein de la République et de la laïcité. Il me semble à cet égard très important de souligner que la laïcité n'est pas une conviction, en tout cas pour moi. On se rassemble, toute conviction confondue, au sein d'un cadre républicain pour accepter la laïcité comme une norme. Et c'est un débat très très fécond actuellement, mais à mon sens, la laïcité n'est pas une conviction comme elle peut avoir ce sens en Belgique, par exemple. C'est une norme qui doit s'appliquer à tous. Et l'on voit déjà que le texte de Ricoeur le mentionne, il y a besoin d'un espace pour échanger les convictions. Et la laïcité permet cet espace. Ça, c'est une chance énorme que l'on a en France. Et puis, le texte de Wittgenstein et de Ricoeur aussi nous tourne vers une deuxième dimension qui borde la conviction par un autre bout, pour ainsi dire, c'est la dimension de la pratique, du vivre ensemble, la vie. Wittgenstein disait l'important, ce ne sont pas seulement les mots que l'on prononce, mais la différence qu'ils font à différents endroits de la vie. La pratique donne aux mots leur sens. Et donc, une pratique, simplement des mots sans sens, sans praticité, sans échange, sans friction réelle des corps et des rencontres, sans concret, produirait un discours qui ne serait que discours. Et la conviction, je trouve, est bien bordée par ces deux notions. Le droit, parce qu'il y a une norme, le droit. Le droit, c'est encore une autre dimension de l'esprit. Et le vivre ensemble, convictus, que vous avez signalé, qui tire vers la victoire, vers la rencontre fraternelle. Et ça, ce sont deux dimensions très importantes.
Alors, j'ai volontairement, et j'espère réussir pendant cette première émission et la seconde qui aura lieu la semaine prochaine avec vous, on abordera précisément cette question de la laïcité. J'espère réussir à ne pas prononcer l'expression « vivre ensemble », justement. Pourquoi ? Parce que l'expression est tellement prononcée, tellement galvaudée, qu'elle devient, je dirais inaudible.
Elle se fige.
Et elle se fige. J'aimerais plutôt parler de vie partagée. Et dans cette vie partagée, vous avez bien précisé, et je crois que c'est très important, qu'il est question non seulement de partager des idées, mais de partager une vie concrète. Et je pense à cette étymologie du concret.
Du concret magnifique aussi.
Allez-y.
Vous aviez cité convivere tout à l'heure, mais je pense qu'on peut démonter en quelque sorte le mot concret, concrescere, qui veut dire, rendez-vous compte, c'est absolument magnifique, croître ensemble, s'élever ensemble. Donc là, on a quelque part une pensée de Wittgenstein en diable, c'est-à-dire que la dimension la plus concrète, c'est aussi celle qui permet de s'élever spirituellement ensemble. Donc là, on a les deux, la théorie et la pratique. S'élever ensemble, c'est notre défi aujourd'hui.
Non, mesdames, messieurs, depuis que j'ai pris cette boule sur la tête, que dit-on ? Que je divague, que j'extravague, que je délire. Écoutez, délirez, moi. Il n'y a pas plus raisonnable que moi. Il n'y a pas d'esprit plus cartésien que le mien. Je fais que rapporter les faits tels que je les observe. Ben évidemment, qui a observé. Oh ben, ça dépend du sens qu'on donne au mot observer. Quand on demande aux gens d'observer le silence, Au lieu de l'observer comme on observe une éclipse de lune, il l'écoute. Et tête baissée encore. Il risque pas de le voir, le silence. Mais parce que les gens redoutent le silence, ils le redoutent. Alors lorsque le silence se fait, les gens le meublent. Quelqu'un dit, tiens, un ange passe. Alors que l'ange, il l'a pas vu passer. Mais s'il avait le courage comme moi d'observer le silence en face, l'ange, il le verrait. Mais parce que, mesdames et messieurs, lorsqu'un ange passe, je le vois. Je suis le seul, peut-être, mais je le vois. Mais évidemment, je ne dis pas que je vois passer un ange. Parce qu'aussitôt dans la salle, il y a un doute qui plane. Et je le vois planer, le doute. Mais évidemment, je ne dis pas non plus que je vois planer un doute. Parce qu'aussitôt, les questions, comment ça plane, un doute? Comment pouvez-vous identifier un doute avec certitude? À son ombre? L'ombre d'un doute! Mais c'est bien connu! Si le doute fait de l'ombre, c'est que le doute existe. Il n'y a pas d'ombre sans doute. Et on sait le nombre de doutes au nombre d'ombres. S'il y a 100 ombres, il y a 100 doutes. Je ne sais pas comment vous convaincre, mesdames. Mais je vous donnerai bien ma parole, mais vous allez la mettre en doute. Mais le doute, je vais le voir planer. Alors je vais le dire, je vois planer un doute. Alors aussitôt, le silence va se faire. Quelqu'un va dire, tiens, un ange passe. Et il faudra tout recommencer.
Rabin Boissière, ce sketch de De Vos qui nous met en joie, nous montre très clairement comment convaincre est entendu dans son sens classique de persuasion ou dans le fait d'apporter la preuve certaine. Mais justement, comment identifier un doute avec certitude? Mais en même temps, et c'est toute l'œuvre de De Vos qui souligne à quel point les mots existent au cœur permanent d'un double jeu, d'un double sens.
Absolument.
Et invitation peut-être, comme le fait la psychanalyse et fondamentalement le Talmud et le Midrash, à réinscrire les mots dans la dynamique de leur oscillation de sens, de la collision de leur sens, dit Jean Kelevitch, entendant par là le renvoi infini d'un terme à l'autre d'une alternative. Et le philosophe Pierre-Michel Klein a beaucoup travaillé sur cette question du collisionnel, si on peut dire. Mouvement hyperdialectique, disait Merleau-Ponty, expression qui traduit bien le mouvement de la discussion entre les maîtres du Talmud, où la pensée ne réside ni chez l'un ni chez l'autre, mais dans la tension entre les deux. Conjonction dynamique entre deux choses ou deux pensées, et nous revoilà au cœur de la conviction, puisque, et c'est là mon deuxième cadeau, si vous voulez, du dictionnaire en tout cas, puisque le troisième sens de conviction, on a vu le premier sens, c'est convaincre, le deuxième sens, c'est vivre dans une vie partagée, et le troisième sens dans le dictionnaire, c'est précisément le terme de conjonction grammaticale. Ce qui renvoie, par exemple, au vav à chibour, la conjonction de coordination. En latin, une conjonction de coordination se dit une conviction. Et à ce moment-là, ce destin de ce multiple sens nous invite peut-être à comprendre que la conviction inclut, comme vous l'avez dit, un lien à l'autre. C'est-à-dire que puisque conviction signifie conjonction, c'est déjà ce lien à l'autre que vous avez évoqué, et non seulement à l'objet de sa croyance ou de sa foi. Et à ce moment-là, j'ai presque envie de dire que la conviction serait toujours la conviction de la conviction. C'est-à-dire que on est convaincu que nous devons avoir que le monde ne fait sens que s'il est partagé avec d'autres qui sont justement différents dans leurs croyances.
An oasis of beauty surrounds us like a sea, takes root in our souls. Oasis, oasis, oasis.
Et à ce moment-là, je me demande, est-ce que c'est pas le sens du mot émouna? C'est-à-dire que, ou je poserai la question différemment, Rabbin Boissière, si vous aviez à traduire en hébreu le terme de conviction, quel terme utiliseriez-vous?
Très, très, très belle question. Avant peut-être de répondre à ça, votre allusion au vavachibour, ce « et » de conjonction, me fait penser à une autre disposition de la grammaire hébraïque absolument magnifique. Il y a aussi le vav à ipour, le vav d'inversion, le « et » d'inversion, qui fait que dans certains verbes, par exemple, quand on met ce « et » devant un verbe au passé, il devient un futur. Oui. Quand on met devant un verbe au futur, il devient un passé. Donc il convertit le passé en futur, et on est au cœur de ce troisième mot de conviction, ce troisième dimension de conviction que vous appelez, à savoir la capacité d'être dans une certaine identité, mais de pouvoir la mettre en mouvement vers un futur nécessairement partagé avec d'autres. Donc de convertir sans cesse les concrétions du passé, que nous ne voulons absolument pas négliger, car elles nous constituent, mais évidemment les remettre en jeu. Et là, on revient toujours au texte de Ricoeur, effectivement, qui dit réimaginer les identités, ça veut dire ne pas les lâcher, mais effectivement les mettre en lien avec d'autres pour inventer un futur commun.
Comme il dit d'ailleurs dans ce même texte, le problème, c'est de ne pas répéter simplement le passé, mais de s'y enraciner pour inventer sans cesse.
Magnifique. On peut pas mieux le dire. Emouna, c'est un terme extrêmement intéressant que l'on traduit diversement. On dit foi, on dit croyance. Je le traduis volontiers par fidélité, parce que dans ce terme de fidélité, il englobe tout le flou possible et donc toute la marge de liberté aussi possible de cette fidélité, à la fois qui veut dire conviction, croyance, définition peut-être précise de certaines choses, etc. Mais jouer sans cesse aussi dans une dimension pratique. Et il est vrai que dans le judaïsme, il y a une disposition d'une modernité incroyable, je trouve, car il y a un corpus, il y a des textes, il y a des choses en lesquelles nous croyons, mais en même temps, il y a cette dimension pratique très très forte. La halakha, la loi juive, les mitzvot, le fait de faire. Et finalement, dans cette dialectique dont une conscience moderne pourrait peut-être conclure trop rapidement que la dimension du faire enferme, qu'est dans une espèce d'observance un petit peu rigide, précisément, il y a des textes magnifiques de Moïse Mendelssohn sur la question qui soulignent le fait que cette dimension pratique préserve justement la liberté de penser, à la liberté de réouvrir les convictions que l'on a. Il dit de manière très juste, dans ses lois cérémonielles, c'est le terme un peu étrange qu'il utilise pour parler de la révélation, du don de la Torah au Mont Sinaï, eh bien, on ne te demande pas en quoi tu dois croire, on te demande juste de faire. Et dans cette dimension du faire, qui est la dimension sociale par excellence, parce que faire, c'est faire des choses ensemble, c'est se donner un rendez-vous pour une prière, 8h30, c'est finalement la vie sociale est constituée de rendez-vous extrêmement précis, et mais à partir du moment où on se rencontre, après, liberté infinie à chacun de croire au Dieu. On va jamais vous demander dans le judaïsme à quel type de Dieu vous croyez. Est-ce qu'il est une femme? Est-ce qu'il est un homme? Est-ce qu'il a une barbe? Est-ce qu'il a pas de barbe? Est-ce qu'il est tout? On croit au Dieu que l'on veut du moment aussi que l'on fait. Et donc, dans cette élasticité constante entre les convictions et le faire, se réélabore de manière permanente ce qui est justement la émouna. Donc, la émouna n'est pas seulement une croyance au sens de la foi du charbonnier qui serait accrochée à quelques définitions dont nous serions intimement convaincus, mais un aller-retour permanent entre des choses qui nous animent et des rendez-vous concrets avec l'autre.
Alors, je pense à l'expression hébraïque « Naase venishma » qui dit « nous allons faire d'abord et ensuite nous allons entendre ». Mais c'est l'engagement dans l'action qui est premier. Et je pensais à Abraham qui est considéré comme dans la Bible comme le premier croyant, celui qui a le premier le mot émouna qui lui est associé. Et quand on demande mais quelle est la foi d'Abraham, quelle est sa fidélité, et on nous raconte cette histoire que il est sur le bord de sa tente, à l'entrée de sa tente, et il attend les invités. Et puis dès qu'il voit quelqu'un sur la route, il le fait rentrer chez lui, et puis il lui donne à manger, il lui lave les pieds. C'est-à-dire que c'est la fidélité ou la foi, la émouna, la conviction, c'est l'accueil, c'est absolument l'hospitalité. Au point que ses invités, dans le texte biblique, lorsqu'il les fait rentrer chez lui, il les appelle Adonai. C'est à la fois mes seigneurs, certes, mais c'est aussi le nom de Dieu. Comme si c'est parce que l'on rencontrait l'autre homme dans l'hospitalité qu'on rencontrait au plus haut la dimension du divin. Mais je pense encore à quelque chose par rapport à la émouna. Dans ce Midrash Rabba, le commentaire sur la Torah qui s'appelle Midrash Rabba, le premier commentaire dit que il faut avoir la émouna, Et le texte demande, mais c'est quoi la foi, c'est quoi la émouna? Et le texte répond avec un terme grec et dit pédagogue. Mm-hmm. Pédagogue, ça veut dire c'est la personne qui prend un enfant et qui l'amène à l'école. C'est le sens étymologique. Et je me suis dit, mais à ce moment-là, il n'y a pas de émouna sans école. Il n'y a pas de foi sans école. Il n'y a pas de conviction sans école. C'est-à-dire pas de foi sans intelligence de l'étude, de la lecture, de l'interprétation et d'une tradition du savoir, Rabin Boissière.
Absolument. Ça me fait penser à une autre histoire, un autre commentaire qui se demande mais pourquoi finalement on donne la Torah à Lévi, donc qui est l'un des fils, bien sûr, après la tribu des Lévites qui s'occupe de la Torah, précisément pas parce qu'il a des vertus particulières, bien au contraire, c'est l'un des fils les plus violents qui va tuer au nom d'une certaine idée. Jacob lui en fait reproche. Shimon et Lévi sont les deux fils les plus. Et c'est précisément à Lévi qu'on donne la Torah, non pas à titre de rétribution de ses mérites, mais parce qu'il en a le plus besoin. C'est-à-dire que la foi est thérapeutique. La foi est un chemin de croissance et pas simplement un diplôme que l'on remet à quelqu'un. Tu es excellent, donc je te remets. La Torah est un chemin de vie qui permet de s'améliorer. Donc la foi est profondément pédagogique. En fait, c'est pas un corpus auquel on croit, c'est un chemin. C'est une pédagogie que la croyance, en tout cas dans la tradition.
Et je me souviens de cette anecdote que rapporte Lévinas à propos de Hannah Arendt qui va voir son rabbin à Königsberg et qui lui dit je peux pas faire ma bat mitzvah parce que je ne crois pas, je n'ai pas la foi. Et le rabbin lui répond mais qui vous la demande?
Oui,
voilà, je crois que là il y a quelque chose d'important, et donc toutes ces convictions, toutes ces problématiques, toutes ces actions, ces engagements, c'est quelque chose qui va être discuté le 22 mars prochain à la mairie de Paris, dans cette journée qui s'appelle Les Voies de la Paix, événement interconvictionnel que vous organisez, monsieur le rabbin Boissière, avec le MJLF. Mais ce qui est très important, c'est de savoir comment y participer. Alors, il y a un site, et j'aimerais que vous en parliez un petit peu aux auditeurs avant que...
Absolument, c'est un bel événement. L'enveloppe horaire maximale, c'est de 16h à 22h. Alors, il faut sans doute venir à 15h30 pour y rentrer. Et là, donc, effectivement, la journée est articulée en différents moments. Un temps de colloque, un temps politique où des hommes politiques nous accueilleront. La maire de Paris, madame Hidalgo, nous accueillera. Des ministres seront présents. Un temps de créatif et au cœur de la conviction, avec un concert de Yom articulé sur un texte lui-même créé par différentes traditions. Un moment de buffet, vous l'avez souligné, un moment de remise de prix. Et il est très important de s'inscrire, alors ne serait-ce que pour des raisons de sécurité, sur le site dédié à l'événement, www.lesvoiesdelapaix.fr. www.lesvoiesdelapaix.fr. Et là, ça, sur la page d'accueil, il y a la possibilité et la nécessité, j'insiste, de s'inscrire de manière uninominale, un nom par inscription, pour participer à ce magnifique événement.
Alors, merci Rabbin Boissière pour cette première découverte, si on peut dire, ce premier parcours de découverte avec cette journée et ce grand projet Les Voies de la Paix. C'était, comme d'habitude, un véritable plaisir.
Plaisir partagé, et, comme d'habitude, effectivement.
Voilà. Après cette introduction à la question de la conviction, dont nous venons de découvrir quelques clés, je vous propose de poursuivre notre conversation la semaine prochaine autour d'une autre question fondamentale que vous avez déjà un petit peu esquissée, la question de la laïcité. Merci encore.
Merci à vous.
C'était Talmudic, une émission de Marc-Alain Wachnin, préparée avec Françoise-Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui Delphine Baudet, à la réalisation Dany Journeau. Vous trouverez toutes les informations de cette journée interconvictionnelle sur le site lesvoiesdelapaix.fr, adresse que vous retrouverez aussi avec tous les détails concernant notre invité sur le site de Talmudic, sur lequel vous pourrez réécouter, podcaster l'émission. Kol Touv, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.